le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous, voici les principaux titres de votre magazine de ce dimanche. Mettre fin définitivement aux velléités du M23 en lui opposant une réponse militaire ferme, c'est ce que préconise la représentante spéciale Bintou Keïta. Elle a déclaré mercredi à partir de Goma au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Mais pour la chef de la MONUSCO à la fermeté militaire, il faudra aussi en même temps ajouter deux autres conditions, faire preuve de bonne foi dans la résolution politique de cette crise et rendre opérationnel le programme DDRCS. Vous suivrez dans cette émission la déclaration de Mme Bintou, mais aussi celle sur le même dossier de Martha Pobi, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique et de Wangxia, envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Journée des casques bleus, c'était dimanche 29 mai dernier. Nous revenons ce dimanche en nous rendant à Kavumu au Sud Kivu. Le contingent pakistanais de la MONUSCO a commémoré l'événement. Vous suivrez aussi les propos du chef de bureau de la mission pour le Sud Kivu ainsi que le Maniema. Enfin, notre invité, c'est le chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPI au Sud Kivu. À l'occasion du lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2022, Diogracias Baïziré parle de la problématique de grossesse non intentionnelle. Il sera interrogé par Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreuses et nombreux à l'écoute de notre rendez-vous dominical. Nous ouvrons cette page par le volet sécuritaire, une réponse militaire ferme face au M23, mais aussi un engagement politique de bonne foi ainsi qu'une mise en œuvre du programme DDRCS. Ce sont là les conditions à remplir pour mettre définitivement fin aux attaques du mouvement du 23 mars, selon Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO. Elle était l'invitée spéciale de la conférence de presse des Nations Unies de mercredi dernier à partir de Goma au Nord Kivu. Un extrait des propos de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, sélectionnée par Honoré Missinga Kalala.
Avec nos partenaires de l'armée congolaise, nous sommes parvenus à ramener un calme très relatif dans les deux territoires. Mais nos efforts doivent se poursuivre pour régler le problème M23 une bonne fois pour toutes. Cela passe par, premièrement, une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elle et soutenir l'armée congolaise. Elle continuera à le faire en plaçant toujours la protection des civils au cœur de sa stratégie, mais avec la plus grande détermination dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Deuxièmement, une réponse politique où chacun s'engage de bonne foi. Les pays de la région ont créé eux-mêmes les mécanismes, notamment le mécanisme conjoint de vérification élargie, chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est la collaboration et la transparence qui doivent prévaloir. Troisièmement, une réponse opérationnelle enfin. La réémergence du M23 nous rappelle douloureusement l'urgence absolue de lancer l'opérationnalisation du programme DDRCS province par province.
Autre déclaration, toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est celle de la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Pobi. Malgré les efforts déployés par le gouvernement congolais pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC, la violence des groupes armés a continué de faire payer un lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires des provinces, a-t-elle déploré devant le Conseil de sécurité. C'était mardi 31 mai à New York. La sous-secrétaire générale a aussi plaidé pour que les membres de l'exécutif de l'ONU accordent tout le poids nécessaire aux efforts régionaux en cours en vue de désamorcer la situation et de mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23. On écoute ici Martha Pobi au micro d'un confrère de la radio des Nations Unies à New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité dans l'est du pays, la violence des groupes armés a continué de faire payer un lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires de province. La récente résurgence du mouvement du 23 mars, connu comme M23 en particulier, et ses actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au nord Kivu aggravent une situation déjà sérieuse. Elle continue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
L'envoyé spécial du secrétaire général dans la région du Grand Lac n'était pas en reste, toujours concernant la situation sécuritaire en RDC. Prenant son tour la parole devant le Conseil de sécurité, Wang Xia a salué l'engagement de toute la région, voire du continent africain, exprimé par le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, à soutenir la RDC et ses voisins dans leurs efforts pour se concerter et tenter de trouver ensemble des solutions à ces problèmes de longue date. Suivez Wang Xia dans cet extrait de la radio onusienne de New York.
Au-delà de cette dimension sécuritaire, nos engagements politiques collectifs doivent plus que jamais se poursuivre. J'encourage les dirigeants de la région à poursuivre leur dialogue de haut niveau sur les moyens pour faire face à la menace que représentent les groupes armés et pour éviter une escalade des tensions entre la RDC et ses voisins. Le dialogue entre les dirigeants concernés de la région reste en effet une condition sine qua non pour mettre fin de manière durable à ces problèmes qui sont anciens et profondément enracinés. Il est donc capital de continuer à mobiliser les mécanismes bilatéraux et régionaux disponibles, y compris le récent processus du conclave de Nairobi, la conférence internationale pour la région du Grand Lac et bien entendu l'accord cadre d'Addis Abeba.
L'envoyé spécial Wang Xia a par ailleurs annoncé à cette occasion une nouvelle tournée régionale qui le conduira dans tous les pays de la région avant le prochain conclave de Nairobi. Changeons de cap, l'intégration du VIH-Sida dans la réponse humanitaire sous le thème d'un atelier de formation organisé le mercredi 1er juin par ONU-Sida à Goma. Plusieurs points focaux travaillant dans le domaine de la lutte contre le VIH et le SIDA y ont pris part. La formation a également intégré des sessions spécifiques avec des équipes mandatées par ONU-SIDA, telles UNFPA, UNICEF et OMS, pour le renforcement des outils d'évaluation de la vulnérabilité au VIH et à la santé sexuelle et reproductive dans le contexte humanitaire. C'est comme l'a expliqué Lévi Benjamin Chizubu Mutombo, en charge du programme ONU-SIDA à l'est du pays, dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga Chamboui.
Depuis un certain temps, on s'est rendu compte que les différents intervenants humanitaires avaient mis de côté, le VIH était devenu laissé pour compte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu rassembler les uns et les autres, toutes les parties prenantes, pour leur rappeler cela avec tout ce que nous avons comme outil. Les directives existent, donc les outils existent et on reconnaît que le VIH est une thématique transversale qui doit être prise en compte dans toutes les interventions, dans tous les clusters. L'objectif ici, c'est de pouvoir d'abord rappeler aux uns et aux autres cette transversalité du VIH dans toutes les interventions. Nous avons appelé tous les clusters humanitaires, à partir de clusters santé, en passant par la protection, la nutrition, sécurité alimentaire, abri, NFI, éducation, communication, tous les clusters, nous allons identifier les interventions VIH appropriées qu'ils pourront mettre en œuvre en situation de crise humanitaire. Que le VIH soit intégré et que le VIH ne soit pas quelque part comme un perturbateur de la réponse humanitaire. Un problème social, un problème médical qui est en train de se poser dans la communauté dont on n'aura rien fait.
Allons maintenant dans l'ex-Grand Bandundu au Kwilu précisément. Le ministre provincial en charge du genre, famille et enfants a organisé du 31 mai au 1er juin 2022 un atelier de lancement de sous-groupes de travail de lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que de mise à jour des circuits de référencement des survivants de dites violences. C'est en partenariat avec l'UNFPA que cet atelier s'est tenu. Nous faisons le point avec Irène Beaumont.
Cet atelier s'est organisé à l'intention des différents acteurs qui interviennent dans la prise en charge holistique des cas de violence basée sur le genre, à savoir la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et la réinsertion socio-économique des survivants. Selon la ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kwilu, cette province connaît plusieurs cas de violence basée sur le genre, mais sont prises en charge dans l'ordre dispersé. Ce qui justifie le lancement des sous-groupes de travail de lutte contre ces violences et la mise à jour des circuits de référencement des survivants dans le but d'avoir des résultats escomptés. Marie-Thérèse Manessa.
Toutes ces violences-là doivent être bien spécifiées. C'est question d'y mettre de l'ordre et donner les orientations claires pour que les acteurs qui interviennent dans ces secteurs-là nous fassent un travail qui va être efficace.
Signalons que ces assises de deux jours sont organisées par le ministère du genre du Kwilu avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en sigle dans les cadre de l'exécution du projet PERS. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Bouclons cette page d'actualité de la semaine en retournant dans l'Est. Plus de 117 000 personnes ont été déplacées depuis le regain de violence en mars dernier dans les territoires de Rutshuru et Niragongo dans le Nord Kivu. L'alerte est de Ocha, comme nous le dit dans ce reportage Denise Lukeso.
Des mouvements retours timides sont observés dans certaines localités, dont Gisigari, Tchengerero, Bugusa, Kabindi, Rangira et Bunagana, ainsi qu'en provenance de l'Ouganda où environ 25 000 personnes s'étaient réfugiées depuis mars. Ocha dit avoir déployé mercredi une équipe à Kiwanja pour suivre l'évolution de la situation et assurer la coordination des opérations humanitaires. D'autre part, les activités d'aide humanitaire se poursuivent, notamment la fourniture d'eau potable et l'installation des structures d'hygiène et d'assainissement dans les zones d'accueil entre Kibati et Goma, en territoire de Niragongo, ainsi que dans les sites de Kanyaruchinya, Bujari, Kayembe et Munigi. Cependant, des besoins persistent en termes d'articles ménagers essentiels en abri, en eau et hygiène, indique Ocha. Des milliers de personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, vivent dans des conditions difficiles dans des centres collectifs, notamment des écoles, alerte Ocha. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Lancement mercredi à Mbandaka du programme Pouvoir Choisir avec l'appui des Affaires Mondiales Canada, un programme qui a trait à la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes ainsi que des adolescentes, l'assainissement et la prévention contre les infections ainsi qu'au genre et au plaidoyer. Dans la province de l'Équateur, ce programme sera implémenté dans les trois zones de santé de la ville de Mbandaka et à Bikoro. Le coordonnateur du programme, le docteur Christian Malou, revient sur la motivation et les avantages du programme dans un entretien avec Paul-Richard Malengela.
Docteur Christian Malou, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une brève présentation de votre projet.
Merci. Il s'agit bel et bien du programme Pouvoir Choisir, qui est un programme qui s'intéresse à trois volets. Nous avons d'abord la santé de la reproduction et le droit sexuel, mais aussi le volet WASH-PCI et également le volet genre et plaidoyer. C'est un programme qui vise la jouissance des droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes et adolescentes dans la province de l'Équateur.
Docteur Christian, tout à l'heure, vous avez donc présenté ce projet, mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a amené à la mise sur pied de ce nouveau programme Pouvoir Choisir?
En fait, il y a eu des études de base, des enquêtes qui ont été effectuées ici sur place dans la province de l'Équateur. Les enquêtes ont démontré que 50% de jeunes filles et adolescentes de la province de l'Équateur n'ont pas des notions, n'ont pas de connaissances sur leurs droits sexuels et reproductifs. Et 50% d'entre elles n'ont pas de notions sur l'utilisation de préservatifs ni sur la planification familiale. Donc ce sont là les raisons qui nous ont poussés à orienter ce grand programme dans la province de l'Équateur afin d'accroître la jouissance même de droits sexuels et reproductifs auprès des jeunes femmes et adolescentes en vue d'une autonomie corporelle auprès de ces dernières.
Quand on parle d'autonomie corporelle ou bien sexuelle, comment allez-vous faire pour que ce programme ne puisse pas heurter les coutumes de l'Équateur? Parce que la plupart tendent à considérer la femme comme une chose dont on peut jouir à sa guise.
Merci. Nous allons procéder à des sensibilisations auprès des leaders communautaires, auprès des leaders religieux, auprès des autorités administratives et politiques de nos communautés, afin d'avoir leur soutien, afin qu'ils comprennent le mauvais côté des us et coutumes néfastes par rapport aux droits de la femme et des jeunes filles. Donc nous allons les sensibiliser afin qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets. Et c'est ainsi que nous aurons la pérennisation même des acquis de ce programme dans la province de l'Équateur.
Docteur, en revanche, certaines gens estiment aussi que ce genre de programme pousse les femmes à devenir de plus en plus insoumises, à mettre des conflits au niveau des foyers, au niveau des familles. Votre réaction?
Non, je ne suis pas d'accord avec vos affirmations, parce que maintenant...
Pas mes affirmations, mais c'est ce que la population...
Ok, merci. En fait, maintenant, nous faisons la promotion de la masculinité positive, dont la société étant tellement ancrée dans l'injustice, dans les inégalités du sexe, et là, nous voulons inverser la tendance. Donc c'est maintenant que ce soit la femme ou l'homme, devons tous jouir dans un même niveau nos droits sexuels et reproductifs. Donc c'est ça même le bien fondé de ce programme. Ce programme tombe à point nommé pour essayer de réduire ces inégalités entre femmes et hommes dans la province de l'Équateur. Donc ce n'est pas pour rendre la femme insoumise, mais au contraire, c'est pour faire la promotion même des droits de cette femme et jeune fille dans la province de l'Équateur.
Y a-t-il un message particulier à l'endroit de la population de l'Équateur bénéficiaire de ce projet?
C'est vraiment, nous sollicitons de leur accompagnement, l'accompagnement de toute la province de l'Équateur, des autorités, des jeunes filles et adolescentes, afin qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre les activités prévues dans ce grand programme qui est le pouvoir choisir.
Docteur Christian Malou, merci.
Merci.
Bref, la MONUSCO a officiellement remis aux autorités locales le 27 mai 2022 la route réhabilitée entre Getieta et Ngassou-Odje, longue de 10 km. Les travaux de cette route ont coûté 84 960 dollars américains. L'objectif était la promotion des activités économiques ainsi que le renforcement de la sécurité dans cette zone où plusieurs milices restent actives. Selon Fidel Mongalema, chef de la chefferie de Walentubindi, ce projet répond à la volonté de la population de voir ce milieu être enfin désenclavé. Pour ceux qui voient, le HCR et la CNR, la Commission nationale de réfugiés, ont procédé au rapatriement volontaire de 250 réfugiés burundais dans leur pays par la frontière congolo-burundaise de Kavimvira. Ces personnes estimées à 73 ménages sont venues du camp de Mulungwe en territoire de Fizi. La CNR, le HCR et ses partenaires logistiques les ont convoyés jusqu'à la frontière de Gatumba au Burundi. De l'Est, rendons-nous dans l'Ouest avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Plus de 24 000 élèves de première et deuxième primaire des écoles publiques de Kikwits bénéficiaires de kits de fourniture scolaire, un don de l'UNICEF et de la coopération coréenne. La distribution symbolique de ces fournitures a eu lieu mercredi 1er juin 2022 dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En plus de ce don en kit scolaire, une quinzaine d'écoles de la même contrée seront construites ou réhabilitées et grâce au même partenariat.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce jour, c'est le chef de bureau UNFPA de Bukavu, Sud-Kivu, de Gracias Baiziré. Mardi 31 mai dernier, le Fonds des Nations Unies pour la Population a lancé son rapport sur l'état de la population mondiale 2022. L'une des questions abordées dans ce rapport porte sur la problématique des grossesses non intentionnelles, suivant donc cet entretien du fonctionnaire de l'ONU qui répond aux questions d'Emmanuel Elamejiwa-Kabedi.
Monsieur Léo Baiziré, bonjour.
Bonjour.
UNFPA présente l'état du rapport mondial de la population 2022. Pourquoi?
En fait, ce rapport constitue une occasion pour appeler la communauté internationale à réfléchir sur une thématique qui touche aux questions des populations et développement. Et pour cette année, la question est beaucoup plus liée aux grossesses non intentionnelles, qui constituent une crise oubliée. Comme vous le savez, les grossesses non intentionnelles peuvent constituer un frein au développement, en ce sens que les femmes et les filles qui se retrouvent dans cette situation sont souvent stigmatisées et leurs capacités de production sont réduites.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre par grossesse intentionnelle? Est-ce la même chose avec grossesse non désirée?
Grossesse non intentionnelle et grossesse non désirée, c'est presque la même chose, mais avec une certaine nuance. Une grossesse non intentionnelle peut être à la longue désirée, en ce sens que la personne qui se retrouve déjà enceinte peut finir par accepter cette grossesse. Par contre, une grossesse non désirée, c'est une grossesse vraiment qu'on ne veut pas. Une grossesse non désirée, ce sont des grossesses qui aboutissent souvent à des avortements parce qu'elle n'est pas désirée, elle n'est pas voulue et la personne qui se retrouve dans cet état se retrouve dans une situation où elle cherche à tout prix comment s'en débarrasser.
Alors, comment se présente le rapport lui-même pour cette année 2022, pour la RDC?
Pour la RDC, le rapport est, je dirais, alarmant. En ce sens que, il y a certaines provinces où nous sommes à 40% et plus des filles et adolescentes qui ont des enfants, alors que notre constitution, la loi sur la protection de l'enfance, tous ces documents normatifs reconnaissent que à moins de 18 ans, un enfant ne peut pas connaître les rapports sexuels. Mais lorsque nous avons des enfants qui ont des enfants, donc qui sont devenus mères avant 18 ans, et que dans certaines provinces, on est dans une proportion de plus de 40%, vous comprenez que c'est dramatique parce que toutes ces grossesses-là, des enfants de moins de 18 ans, constituent des grossesses ici de viol. Et donc, le gouvernement avec ses partenaires ont encore beaucoup à faire pour que la situation puisse se renverser et que nous puissions vivre dans un état où les enfants sont protégés, dans un état où les femmes et les filles ont les libres choix par rapport à la procréation pour que ces grossesses non intentionnelles puissent diminuer sensiblement.
Comment faire face à cette situation actuellement pour renverser la tendance, comme vous l'avez dit? Quel mécanisme vous mettez en place pour y faire face, pour diminuer, soit mettre fin à cette situation?
Pour renverser la tendance, il y a tout un programme d'information, de sensibilisation et de la disponibilité des intrants pour la planification familiale et un programme d'éducation à la sexualité pour les jeunes et les adolescents, un programme d'éducation et d'information aux couples et aussi promouvoir la masculinité positive pour qu'on ne puisse pas continuer à croire que le problème de la planification familiale est un problème des femmes, c'est un problème de tout le monde. Quand on est déjà en couple, c'est un problème des couples, en famille, c'est un problème des parents et des enfants. Et dans toute la communauté, il faut que tout le monde, on se mette ensemble pour que chaque personne puisse comprendre que c'est un problème qui les concerne. Et bien sûr, dans le contexte actuel de l'Est de la RDC, nous continuons aussi à mener des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour mettre fin aux violences sexuelles qui caractérisent l'Est de la RDC, parce que beaucoup de grossesses non intentionnelles aussi ont comme source les viols sur les filles et les femmes, pour que nous puissions arriver au résultat escompté.
Monsieur Deo Baïzire,
merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Revenons encore à la journée des casques bleus célébrée le 29 mai. Cette année, l'événement s'est déroulé dimanche, notamment avec une cérémonie organisée par le contingent pakistanais à Kavumo, sur Kivu. C'était en présence du chef de bureau de la MONUSCO, sur Kivu et Maniema. Celui-ci a rendu hommage aux casques bleus et au FRDC pour les efforts consentis en vue d'assurer la sécurité des populations civiles et de restaurer la paix. Les propos de Léopold Nonké au micro de Rachel Kessimbangu.
Aujourd'hui, nous honorons plus d'un million de femmes et d'hommes qui ont servi dans les rangs des casques bleus des Nations Unies depuis 1948. Et nous nous remémorons cette vérité séculaire. La paix ne peut jamais être tenue pour acquise. Elle est l'objectif ultime. Nous sommes profondément reconnaissants aux 87 000 membres du personnel civil, militaire et de police qui, sous la bannière de l'ONU, œuvrent aujourd'hui à asseoir la paix dans le monde. Ils font face à des défis colossaux, La multiplication des violences à leur égard a rendu leur travail encore plus dangereux. Les restrictions dues à la pandémie l'ont rendu plus difficile. Mais les casques bleus continuent d'endosser avec honneur leur rôle de partenaire pour la paix. Cette année, nous mettons l'accent sur le pouvoir extraordinaire des partenariats. La paix s'obtient lorsque les gouvernements et les sociétés unissent leurs forces pour régler les différends par le dialogue, instaurer une culture de la non-violence et protéger les plus vulnérables.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
En avril dernier, Bintou Keïta a participé à Berlin à une conférence des missions de maintien de la paix. De quoi était-il question? Eh bien, cela a été demandé mercredi dernier à la chef de la MONUSCO au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Suivez sa réponse.
2 minutes pour conclure avec les conclusions de la retraite, en fait, entre guillemets, des opérations de maintien de la paix à Berlin. Je crois que c'était les 25 et 26 avril dernier. Très clairement, les défis qui existent sont maintenant des défis au niveau de la forme de violence qui existe sur terrain. Et du fait que s'il y a plusieurs années en arrière, on va dire il y a 20 ans ou un peu plus, il y avait un respect pour les casques bleus. Maintenant, nous sommes dans des situations dans la plupart des opérations de maintien de la paix où les casques bleus sont directement pris pour cible. Et là, nous venons juste de commémorer le 29 mai, c'était dimanche, ici même à Goma, le fait que le travail que font les casques bleus, que ce soit les militaires, les civils, les policiers, les volontaires des Nations Unies, tous ceux qui concourent au travail des opérations de maintien de la paix, vivent et travaillent de plus en plus dans des conditions difficiles, dangereuses, avec les contextes de guerre asymétrique, d'utilisation de techniques terroristes, d'utilisation accrue de ce que j'appelle la menace des engins explosifs improvisés, notamment pour ce qui concerne ici au Mali, c'est quasiment tous les jours, et ici c'est essentiellement dans la zone de Beni. Et pour les collègues et le staff qui travaillent dans ces zones, comme pour la population et comme aussi pour les forces de sécurité, c'est une menace qui est absolument terrible. Et donc, de plus en plus, on doit pouvoir s'outiller dans les opérations de maintien de la paix à la hauteur convenable pour juguler ces risques des engins explosifs improvisés.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Prenez vos carnets et notez ces deux rendez-vous pour la semaine qui commence. Le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans et le 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention et merci également à Billy Landry et Beto qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Babel Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée, réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.